Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Donald Trump veut choisir les immigrés qui entreront aux États-Unis. Le président américain a dévoilé ce soir une politique migratoire fondée sur le mérite. Les explications de Grégory Phillips dans un instant. En Inde, les élections législatives s'achèvent dans la violence au Bengale. Les nationalistes hindous du premier ministre Modi multiplient les agressions contre leurs adversaires. La correspondance de Sébastien Farcy. L'actualité française, le parquet national financier demande de la prison ferme pour les époux Balkany, jugé pour fraude fiscale, un procès suivi par Delphine Gauthier. Philippe Martinez sera réélu demain à la tête de la CGT en congrès à Dijon. La CGT malmenée, voire marginalisée par les Gilets jaunes. Nous en parlerons avec l'invité de cette édition, le politologue Jean-Marie Pernaut. Depuis son élection à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait de l'immigration l'une de ses priorités et le président américain a annoncé ce soir une nouvelle feuille de route migratoire particulièrement restrictive. S'agissant de l'immigration illégale, il reste déterminé à construire son mur à la frontière mexicaine et il compte bien en finir avec ce qu'il appelle les demandes d'asile fantaisistes. On retrouve en direct de Washington Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, concernant l'immigration légale, cette fois, Donald Trump pose de nouvelles conditions aux étrangers qui frappent à la porte des États-Unis.
Oui, c'est vrai, c'est une vaste réforme du système d'immigration que Donald Trump met sur la table, un système qu'il qualifie de dysfonctionnel et par lequel passent chaque année un peu plus d'1 million de personnes. Alors que dit Trump? Eh bien, que ce système donne trop d'importance au rapprochement familial qu'il veut limiter. Au hasard aussi, vous savez qu'il y a aux États-Unis un système de loterie pour obtenir les fameuses cartes vertes, eh bien ça aussi, Trump veut y mettre fin. En fait, ce que le président américain souhaite, c'est accueillir à peu près le même nombre d'immigrés, mais avec des standards plus élevés, une immigration au mérite, des gens diplômés, brillants, même des génies, dit-il, des gens qui s'assument financièrement et qui parlent anglais. D'ailleurs, Donald Trump propose que tous ceux qui veulent s'installer aux États-Unis passent bientôt un test d'anglais et un examen de culture civique. Bref, Donald Trump veut une immigration plus qualifiée, mais il sait aussi qu'il y a peu de chances que ce plan soit adopté par le Congrès. Alors il donne rendez-vous à après novembre 2020. Quand dit-il, nous aurons récupéré la majorité à la Chambre des représentants, gardé le Sénat et gagné la présidentielle. Et d'ailleurs, Donald Trump espère bien que l'immigration légale et illégale sera au cœur des débats lors de la prochaine élection.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis, merci. En Inde, les élections législatives s'achèvent dans un climat de violence. Le scrutin ouvert le 11 avril dernier pour renouveler la chambre basse du Parlement indien prendra fin dimanche avec le vote des dernières régions. Et c'est le Bengale qui concentre toutes les inquiétudes. Des affrontements ont éclaté entre les nationalistes hindous du Premier ministre Narendra Modi et les partisans de la chef du gouvernement bengalais, à tel point que la commission des élections a dû suspendre la campagne électorale. C'est une correspondance de Sébastien Farcy.
Nous sommes à Calcutta mardi soir. Le convoi du président du parti nationaliste hindou du BJP passe avec des centaines de militants. Sur cette vidéo diffusée sur Twitter, on voit les partisans s'arrêter, attaquer un bâtiment avec des bâtons et forcer l'entrée. C'est l'université Vidyasagar et en quelques minutes, ces hommes saccagent les lieux et détruisent la statue de Ishwar Vidyasagar, une icône célèbre du Bengale. C'est un vrai scandale. Nouveau cas de violence électorale dans cette région disputée. Le BJP, malgré ses preuves, accuse le parti régional d'avoir orchestré ce saccage. Son objectif, présenter la ministre en chef du gouvernement du Bengale comme un tyran. Cette femme, Mamata Banerjee, défend en effet ardemment les bases laïques de l'Inde à l'opposé du BJP hindouiste et représente donc l'une des principales opposantes à Narendra Modi. Mais autour d'elle vient maintenant de se former une alliance exceptionnelle du Nord au sud de l'Inde, de nombreux partis tels que le Congrès soutiennent Mamata Banerjee contre le BJP et condamnent la décision de la commission des élections de raccourcir la campagne dans la région pour des raisons de sécurité, car cela ferait le jeu du BJP.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et de Radio France en Inde. Patrick Balkany va-t-il partir en prison? En tout cas, c'est la volonté du parquet national financier qui a délivré aujourd'hui ses premières réquisitions dans le procès du maire de Levallois-Perret. 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt à l'audience. 2 ans ferme ont été requis contre Isabelle Balkany. Mais là, ce serait une peine aménageable. Il s'agit du volet fraude fiscale du procès des époux Balkany devant le tribunal correctionnel de Paris. Le compte-rendu d'audience de Delphine Gauthier.
C'est un réquisitoire implacable, surtout à l'encontre de Patrick Balkany, que le parquet national financier appelle le grand fraudeur fiscal. L'avocat de Patrick Balkany gronde dans sa plaidoirie express d'une trentaine de minutes, où Éric Dupond-Moretti ne fait finalement qu'effleurer les faits sans aucune démonstration. Mais contre l'accusation, il tonne. Balkany est l'homme à abattre, au point qu'il faille l'envoyer en prison pour que tout le monde se régale. Un Français sur cinq serait prêt à pratiquer l'évasion fiscale, et il faudrait en faire un exemple. Pour le parquet national financier, aucun doute là-dessus. Les époux Balkany ont soigneusement orchestré leur fraude fiscale. Ils ont tout fait pour sous-estimer leurs revenus, dissimuler leur patrimoine pour ne pas payer l'ISF. Comble de l'ironie, on apprend qu'ils ont même reçu du fisc un remboursement d'impôt de 7 100 € pour les salaires versés à leurs employés de maison. Alors pour le substitut Arnaud de la Guiche, la mise à l'écart des individus est parfois nécessaire au vivre ensemble. Il est question de respect des hommes publics, de la légitimité d'un système politique, d'une histoire de dissuasion. La dissimulation a un coût, le mensonge a un prix, conclut le ministère public.
Delphine Gauthier, et c'est le 13 septembre prochain que le tribunal rendra son jugement dans ce volet fraude fiscale du procès. L'examen de l'autre volet relatif aux faits de blanchiment et corruption reprochés aux époux Balkany. Cet examen débutera lundi, il donnera lieu à un deuxième réquisitoire du parquet national financier. Le Conseil constitutionnel a validé aujourd'hui le principe des privatisations d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux. Les sages approuvent cette partie de la loi Pacte votée par le Parlement, une décision qui ne remet pas pour autant en cause le référendum d'initiative partagée lancé par l'opposition pour empêcher la privatisation d'ADP. La semaine dernière, le Conseil constitutionnel avait validé le lancement du RIP. Du coup, Rosalie Lafarge, l'opposition, estime que le gouvernement a essuyé aujourd'hui un nouveau revers.
Aéroport de Paris n'est pas un service public national. Voilà la réponse des sages. Le Conseil constitutionnel rejette tout monopole de fait du groupe.
En revanche, il rejette la demande du gouvernement d'annuler, dès lors qu'il autorise la privatisation d'ADP, la procédure de référendum que nous avons lancée.
Le député Les Républicains Gilles Carrez.
Là, le gouvernement subit un échec. Rien aujourd'hui dans la Constitution ne permet de qualifier Aéroports de Paris comme un service public national, mais il revient au législateur de dire s'il estime que Aéroports de Paris doit en être un, et le législateur est tout à fait fondé à utiliser la procédure de référendum d'initiative partagée pour s'opposer à cette privatisation et donc déclarer qu'ADP est un service public national.
Mais pour cela, il faut réunir 4 700 000 signatures. L'opposition y croit, le député communiste Sébastien Jumel en tête.
Les Français savent ce qu'ont donné les privatisations des autoroutes. Les Français ont réaffirmé depuis plusieurs semaines leur attachement au service public, aux éléments d'un État stratège, d'un État qui ne renonce pas à ces outils nécessaires à l'aménagement du territoire. ADP fait partie de ces outils stratégiques. On y va maintenant, parole au peuple.
En attendant, même si elle est validée, la privatisation d'ADP reste en suspens, au moins pendant les 9 mois qu'ont les parlementaires pour rassembler les signatures.
Rosalie Lafarge, merci. À noter que 24 articles de la loi Pacte ont été rejetés par le Conseil constitutionnel, dont ceux qui devaient mettre fin aux tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Le 52e congrès de la CGT s'achève demain à Dijon et sauf énorme surprise, le secrétaire général Philippe Martinez, seul candidat à sa succession, sera réélu pour un nouveau mandat. Une CGT qui traverse aujourd'hui une zone de turbulence. En nombre d'adhérents, la CFDT lui a pris la première place l'an dernier et surtout la centrale CGTiste semble avoir été dépassée par le mouvement des Gilets jaunes. On en parle avec l'invité de ce journal, le politologue Jean-Marie Pernaud, spécialiste des mouvements sociaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Marie Pernaud, la CGT n'a-t-elle pas commis une erreur d'analyse en suggérant dans un premier temps que les Gilets jaunes étaient récupérés par le Rassemblement national de Marine Le Pen ?
Oui, je pense qu'au début, il n'y avait pas encore de récupération, puisque le mouvement en était à ses prémices, mais il y a eu d'entrée de jeu une méfiance sur le fait que à la base antifiscale de ce mouvement pouvait ressembler effectivement à des choses qu'on a connues dans l'histoire et qui étaient plutôt animées par des courants de droite ou d'extrême droite. Bon, en l'occurrence, c'était pas ça, la suite l'a montré, enfin le mouvement était beaucoup plus divers que ça, même si il est difficile de qualifier un mouvement aussi varié que celui des Gilets jaunes, mais en tout cas, beaucoup de militants CGT au niveau local sont allés à la rencontre sur les carrefours, etc. Et ont découvert un peu cette complexité que la Confédération n'a saisie que tardivement. Et puis je crois qu'il y a une espèce de grande frustration aussi qui est liée au fait que c'est quand même le premier grand mouvement aussi durable, enfin grand. Il est grand ne serait-ce que par sa résonance, mais parce qu'il a mis dans l'action des gens qui traditionnellement ne sortent pas beaucoup dans la rue, et que ce mouvement qui dure, qui a des effets politiques et qui a des effets sur la politique du gouvernement, eh bien il y a une certaine frustration syndicale, parce que d'abord il est parti en dehors d'eux, il s'est maintenu en dehors d'eux, ce qui est quand même récent, enfin nouveau dans notre histoire sociale, et je crois qu'il y a vraiment cette frustration des cégétistes d'être finalement mis sur le côté, hein, de jouer dans les coins, dans une dynamique sociale comme celle-là. C'est quand même la première fois que ça arrive à la CGT.
Et d'autant plus que le mouvement des Gilets jaunes a fait reculer le gouvernement. Le gouvernement a fait des concessions, alors que la CGT et les syndicats en général n'arrivent plus à faire reculer le gouvernement. Comment vous expliquez cet échec des organisations syndicales ?
Si vous voulez, depuis une vingtaine d'années, vous avez raison, il y a eu des grands mouvements sociaux sur les retraites, sur des sujets divers et variés sur lesquels les pouvoirs publics n'ont pas bougé. On a même les gouvernements, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, n'ont pas laissé beaucoup de place à la négociation sociale. Ils ont imposé des projets et on a même le sentiment que la plupart des gouvernements ont tiré leur légitimité de leur capacité de résister à la demande sociale qu'exprimaient les syndicats. Et je pense que ce verrouillage du système politique à l'égard de la demande sociale, évidemment, a mis au grand jour une certaine incapacité syndicale à faire bouger les choses, même lorsque les mouvements étaient unitaires, ce qu'ils n'ont pas toujours été, notamment dans la période récente, mais on se souvient qu'entre 2006, disons, et 2010, le pays a été traversé de grandes séquences sociales unitaires et que les pouvoirs publics n'ont pas bougé. D'une certaine manière, d'ailleurs, ceux-ci le payent en voyant émerger face à eux un mouvement qui, effectivement, est dépourvu de représentation, est dépourvu d'un groupe de représentants, d'une mise en forme, comme le font en principe les syndicats dans les mobilisations sociales. Et évidemment, l'effet qu'a eu le mouvement des Gilets jaunes vis-à-vis des pouvoirs publics, ils ont fait bouger le système politique, le gouvernement, le président, et les syndicats sont un peu frustrés, effectivement, de ne pas l'avoir su faire. Ça n'arrange pas l'image qu'ils ont auprès des salariés, qui est déjà en déclin depuis 2012-2013.
Jean-Marie Pernaut, est-ce que l'on peut dire que la CGT a perdu la classe ouvrière, ou tout au moins une partie de la classe ouvrière ?
Alors, la classe ouvrière, quelle est-elle aujourd'hui ? Elle est extrêmement dispersée, elle est dans des lieux où la CGT n'est pas, où la CGT n'est plus. C'est le premier problème, on le voit à travers le Congrès, là, la question de sa structuration, du fait qu'elle a des trous dans la raquette, hein, de son implantation qui deviennent béants. Mais il y a une autre question, et qui là est moins traitée par le Congrès, qui est que là où elle est, parce qu'elle est quand même encore dans pas mal d'entreprises, là où elle est, son influence recule. Alors elle recule dans tout. Dans toutes les catégories sociales, enfin ceux qui ont analysé les résultats électoraux, c'est un recul relativement homogène, y compris chez les ouvriers. Et ça, c'est quelque chose qui n'interroge pas beaucoup les délégués, manifestement, qui continuent à proclamer beaucoup et très fort le syndicalisme de classe, mais avec une certaine difficulté à appréhender la transformation des groupes sociaux qui, traditionnellement, sont ou devraient être le soutien de l'action syndicale. Donc elle est un petit peu à côté, me semble-t-il, dans son implantation, dans les couches sociales qu'elle touche, elle est un petit peu à côté du mouvement réel de la classe, puisque en restant dans ce vocabulaire et dans ces concepts qu'elle utilise volontiers, mais je crois sans toujours analyser que les classes sociales ne sont pas données une fois pour toutes, et que même ce qu'on appelait la classe ouvrière, aujourd'hui une classe travailleuse beaucoup plus large que le simple groupe des ouvriers, il y a les employés, il y a les cadres, les techniciens, etc. Donc ce mouvement-là bouge et est réparti dans un système économique qui a beaucoup changé depuis 30 ans, là où les structures de la CGT sont restées étrangement fixes, et que, si vous voulez, on a le sentiment qu'il y a du mouvement autour de la CGT, beaucoup plus que, beaucoup plus vite en tout cas, que ce qu'elle est capable d'organiser, d'adapter dans sa façon d'appréhender le monde, d'appréhender, y compris ce qu'elle appelle la classe ouvrière. Elle est beaucoup aujourd'hui chez les intérimaires, dans le commerce, chez les précaires qu'elle touche pas ou peu, bref, elle est un peu en retard sur la constitution de cette classe travailleuse aujourd'hui.
Jean-Marie Pernaut, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Deux bons indicateurs aujourd'hui pour l'économie française. Le taux de chômage est tombé à 8,7% au premier trimestre selon l'INSEE, son meilleur résultat depuis 10 ans. L'INSEE qui revoit aussi à la hausse la croissance française en 2018, 1,7% l'an dernier, 0,1 point de plus que la dernière estimation. La météo demain se dégrade sur la moitié sud. La pluie et le vent arrivent par l'Aquitaine avant de gagner les régions méditerranéennes et Rhône-Alpes. Sur la moitié nord, un temps plus calme, mais le ciel sera souvent nuageux et parfois pluvieux. Température minimale entre 5 et 13 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 13 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.